Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous de jeu, l'émission hebdomadaire où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. Et quelle actu ! Aujourd'hui, on a plein de choses intéressantes dont on va parler, et notamment cette histoire de Stadia qui va arrêter le développement de jeux exclusifs pour sa plateforme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'ils jettent l'éponge ? Est-ce qu'ils prennent un nouveau départ ? On va analyser tout ça. C'est le Rendez-vous jeu numéro 172. Nous sommes en février 2021. Et j'ai l'immense plaisir de recevoir d'une part mon co-animateur favori qui travaille à JVcom. J'ai nommé Jika Loret. Comment ça va, Jika ?
Je suis toujours le favori, donc ça me fait plaisir. Après, je crois que je suis ton seul co-animateur parce que de l'autre côté, c'est une co-animatrice. Donc, je ne prends pas trop de risques, je pense, en disant ça. Mais je suis quand même content.
Écoute, il y a, disons que tu es mon seul co-animateur régulier qui travaille à JVcom, qui s'appelle Jika Loret. Donc, et parmi tout cela, tu es de très loin mon favori. Hein.
Ça va très très bien.
J'ai également le grand plaisir de recevoir Giato qui nous rejoint. Ça doit faire la troisième fois que tu es dans le rendez-vous jeu. Tu es une habituée maintenant. Comment ça va, Gia?
Oh, je ne sais pas si je suis encore une habituée ou si j'ai déjà gagné le grade de co-animatrice. Ce serait vraiment trop, trop, trop d'honneur de ta part. Vraiment. Bonjour Jika, Patrick. Toujours un plaisir d'être là avec vous. Super. Donc voilà, on dit de revenir, je reviens.
Hein. Écoute, je suis très heureux que tu prennes le temps de venir discuter un petit peu avec nous et que tu nous prêtes ton expertise vaste. Surtout que tu es en dehors des heures de travail, là, puisque tu es avec nous depuis le fin fond de l'Asie. Donc, merci beaucoup de te joindre à nous.
Fin fond de l'Asie, c'est un des pays les plus développés d'Asie.
Non,
quoi.
Mais bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que tu es en Asie, tu es à Taïwan, c'est très loin par rapport à nous et que il est déjà 7 heures du soir pour toi. Tu devrais être tranquillement en train de te reposer. Ah. Et au lieu de ça, tu te dis, je vais aller parler avec des gens qui parlent de jeux vidéo, donc j'apprécie.
Je prends ça comme le verre à la fin du boulot, quoi. Ouais. Mais bon, quand on est youtubeuse, t'as plus d'horaire de toute façon. Tu comptes pas les si bah là c'est une observation hein, que beaucoup savent. Si vous voulez un boulot pépère 9h 18h youtubeur, c'est pas le bon plan, vraiment pas.
C'est clair, je confirme. Et avant de reparler de ça, d'ailleurs, je voudrais tout de même remercier les auditeurs qui soutiennent le rendez-vous de jeu, qui soutiennent sur Patreon. À savoir, on a des noms excellents hein, pour cet épisode. Je voudrais remercier Dark Saucis, Mouik Mouik, Eukyle, Vieux Débris, Pascal Villemagne, Le Sonze, Will Eisner, Eric, Dorwin et Frank Soth. Et le producteur de cet épisode, Lancelot Davizard, qui vient pourfendre les fake news en soutenant au niveau producteur le rendez-vous tech. Et tel son compatriote de la cour du roi Arthur, il nous aide à faire une émission qui combat les forces du mal, peut-être représentée d'ailleurs par Dark Saucis, puisqu'il est dark. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien, ça fait penser à d'autres heures sombres de l'Empire et de la Nouvelle République. Mais merci en tout cas à vous tous de soutenir le rendez-vous jeu. On vous dira un petit mot sur tout ça dans quelques minutes aussi. Et tu parlais de YouTube. J'ai publié une nouvelle vidéo sur les exclus. Dans le jeu vidéo en général. Et il y a... Oula, ça fait du bruit. C'était une vidéo d'analyse qui a été publiée il y a une journée. Elle avait été préparée avant le sujet sur Stadia ne tombe. Et en fait, je trouve que c'est assez... Il y a pas mal de recoupements là-dedans sur l'importance des exclus. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Donc, bon, bref, vous connaissez la chaîne YouTube. C'est youtube.com/notepatrick. Donc, vous pouvez aller voir ça si ça vous intéresse. Et Jiat a aussi fait une analyse de Stadia et de la news au moment où c'est tombé. Donc... vous pouvez aller sur les deux chaînes pour avoir toutes les pièces du puzzle pour comprendre l'importance de tout ça. Mais on va, en tout cas, en parler également ici. Je veux juste ajouter un dernier truc avant de nous lancer dans les discussions, c'est que j'ai lancé un nouveau podcast pour parler du MCU, du Marvel Cinematic Universe et de WandaVision. Je ne sais pas si vous suivez WandaVision, JK et Jia, ça vous intéresse ou pas du tout ?
Bah, en fait, moi, ça m'intéressait vraiment pas du tout à la base, parce que j'aime bien le MCU, mais voilà, sans plus. Mais j'entends tellement de bons retours sur cette série, je me suis dit, bon, je vais peut-être quand même m'y intéresser.
Eh bien, écoute, tu peux regarder les épisodes et après, aller télécharger sur ton app de podcast l'émission Super Laser Punch, qui est mon nouveau podcast qu'on fait avec Johan, qui a un titre absolument formidable que vous n'oublierez plus, Super Laser Punch, qui parle du MCU et qui décortique ces épisodes. On a déjà deux épisodes où on parle des épisodes de WandaVision 1 à 3 et puis le numéro 4. Et puis, dès lundi, on aura le numéro 5. Bref, si vous aimez Marvel, vous devez écouter Super Laser Punch. Bon, voilà, toutes les promos sont faites.
Je m'abonne de suite.
Ah, super. Enfin, l'écoute pas avant d'avoir vu l'épisode, hein, quand même. Avant d'avoir vu les épisodes.
Non, mais je vais télécharger tout ce que vous sortez sans écouter. C'est juste pour faire des stats.
Écoute, j'apprécie sympa, énormément ton soutien. Ah. Bon, alors, on va parler donc un petit peu de cette histoire de Stadia. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avant de commencer à analyser ? Stadia a annoncé il y a quelques jours de ça, il y a deux, trois jours, qu'ils abandonnaient le développement de jeux en interne, de jeux exclusifs sur la plateforme Stadia. Et c'était une immense surprise parce qu'on n'a pas entendu de rumeurs, on n'a pas eu de préannonce ou d'indication de quoi que ce soit. Et évidemment, Google avait annoncé par la voix de son vice-président et general manager de Google Stadia, Phil Harrison. Ils avaient assuré que ce coup-ci, c'était assuré que Stadia était là pour durer et qu'il n'allait certainement pas abandonner le projet comme Google a tendance à le faire un petit peu trop souvent. Et là, c'est pas vraiment qu'ils abandonnent le projet Stadia, mais par contre, on peut légitimement se poser des questions sur le futur de la plateforme publique, on va dire, sur la plateforme en tant que plateforme de jeux vidéo sur laquelle on pourra acheter des jeux et s'abonner à Stadia Pro et ce genre de choses, parce qu'ils ont annoncé qu'ils voulaient se recentrer sur les services aux entreprises. En gros, c'est un truc dont on parlait depuis un moment et que j'en avais d'ailleurs discuté dans un article que j'avais écrit il y a un an et demi en disant que Stadia, leur vrai business model, à mon avis, c'était plutôt de faire de la marque blanche et d'offrir des services de streaming à des sociétés tierces en tant que marque blanche. Et ils semblent indiquer, plus ou moins, dire que c'est ce qu'ils vont faire, en disant également, en assurant qu'ils vont travailler avec les développeurs de tierces parties. Enfin bon, c'est en tout cas une grosse surprise. Jay Draymond quitte la société et ils abandonnent complètement les exclus développés en interne, ce qui, comme je le disais dans la vidéo sur YouTube, le cœur d'une plateforme, c'est ses exclus. Parce que s'il n'y a pas d'exclus, on n'a pas de raison d'aller vers cette plateforme quand on est un joueur, puisque les autres jeux qui ne sont pas des exclus, on les a ailleurs et donc on n'a pas besoin de faire un effort pour aller sur cette plateforme s'il n'y a pas d'exclus qui nous intéresse. Bon, Stadia a quand même une caractéristique qui est qu'on n'a pas besoin, comme tous les services de streaming, on n'a pas besoin d'acheter un matériel, une console pour pouvoir utiliser les jeux dessus. Donc c'est un petit peu différent, la barrière à l'entrée est moins grande, mais il n'empêche, c'est quand même une plateforme qui a ses désavantages aussi. Alors, vous avez tous les deux une assez grande expertise dans tous ces domaines, mais je vais me tourner vers Jia en premier. Qu'est-ce que tu penses de cette annonce ? Qu'est-ce que ça veut dire pour Stadia ? Et pour, enfin, je sais pas, pour l'industrie, pour le streaming en général, c'est quand même important. Qu'est-ce que tu, comment tu analyses cette annonce de Phil Harrison ?
Alors, il y a, beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Donc, comme tu l'as bien résumé, quand ils sont, le fait que Google entre dans le marché des jeux vidéo, c'est pas étonnant parce que c'est une société qui est partout. Et donc, c'est un peu normal qu'ils rentrent dans, ce milieu-là où ils n'étaient pas trop, trop présents, mis à part Google Play qu'ils ont, en fait. Et donc, ils ont les chiffres, ils voient où est-ce que... ils voient que, voilà, il y a, beaucoup d'argent à se faire. Et donc, c'est normal qu'ils rentrent dans, sur le marché. Ce qui a été gênant, c'est qu'ils soient entrés en tant que nous allons tout tuer, nous avons notre rouleau compresseur et on va changer la face du monde. C'est un peu ce parti pris-là qui est un peu gênant. Et quand on rentre dans le monde du gaming, c'est un milieu qui est très difficile. On l'a vu avec plusieurs intervenants qui ont essayé d'entrer, qui sont un peu arrivés les deux pieds dans le plat et qui galèrent au final parce que le public du gaming n'est pas le même que celui des séries télé, c'est pas le même que celui du streaming, du cinéma, même si ça se recoupe. Il y a une exigence qui est assez exceptionnelle pour des produits culturels qui sont très difficiles à faire. Et du fait qu'ils ont une technologie qui est vraiment très bien, ils auraient pu prendre un autre angle et je pense que ça se serait passé mieux. Et là, ce qui se passe, c'est que l'impression, c'est qu'ils ont, sont rentrés dans le marché, mais ils n'ont pas bien étudié les tenants et aboutissants et les frais et tout ce qu'il y avait autour, en fait. Mmh. Et on a l'impression qu'ils se rendent en cours de route, que ça ne va pas se passer comme, comme ils l'avaient prévu dans leur plan. Et on a, ça fait, en fait, le fait que Google change de stratégie, ça ne me choque pas parce que on peut pas en rentrer comme ça et puis se dire on fait ce qu'on a prévu depuis le début, même si on rentre droit dans le mur, c'est pas grave, on continue. Là, ils ont vu qu'il y avait un mur devant, ils ont arrêté les frais et donc ils resituent leur stratégie. Mais le fait qu'ils aient mis qu'ils se soient lancés dans les studios de développement en engageant plein de gens talentueux pour essayer de faire une exclue un peu sur le modèle de Sony, hein, sur le modèle de Nintendo, bah, ils se sont rendus compte que ce n'était pas faisable avant X nombre d'années. Ouais. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est qu'ils avaient Microsoft qui est juste avant, qui est passé juste avant, qui ont eu plus ou moins les mêmes problèmes et qui ne se soit pas penché dessus, surtout que ce sont deux boîtes américaines. Et ça, ça me tue. Ça, ça me tue vraiment.
Tu sais, c'est... Donc...
c'est... Ouais, c'est... je sais pas, je... Ouais.
Non, vas-y, vas-y, fini. Vas-y. Mais je suis... En fait, je suis d'accord avec toi, mais vas-y, fini.
Et du fait qu'ils changent de stratégie, mais heureusement qu'ils changent de stratégie, mais c'est la façon de le faire, c'est la façon de communiquer. Quand je suis sur ma vidéo, je passais beaucoup de temps à lire le communiqué en anglais et à essayer de voir le truc. Mais quand, vu comment c'est tourné, c'est vraiment « oui, voilà, nous pensons à votre bien, blablabla, bla, 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 c'est pour le bien de tous ». Au fait, tout à la fin, au fait, on arrête les studios. C'est un peu, enfin, je trouve qu'en logique de stratégie d'entreprise, c'est une hérésie. C'est vraiment mettre de l'argent par la fenêtre. Ils en ont beaucoup, ok, c'est bien, content pour eux. Mais qu'ils le gèrent de cette façon, mais ça donne juste une image générale qui n'est qui ils gagnent pas des points là-dessus.
Ouais.
Et de la part d'une entreprise comme Google, je suis déçu. Je suis profondément déçu. Et Stadia, je pense sincèrement que c'est une bonne technologie. C'est une bonne technologie qui peut servir justement à d'autres éditeurs. Ça peut être réellement quelque chose de révolutionnaire dans l'avenir. Ça peut être quelque chose vers lequel on tend, mais pas comme de la façon comme ils l'ont abordé. C'est moi, c'est ça qui me choque.
C'est vraiment... Il y a tellement de choses. D'abord, ce que tu dis... Et je suis complètement d'accord, et ça rejoint une chose que je dis depuis longtemps, c'est que les gens de la tech, ils comprennent pas le jeu vidéo, ils pensent qu'ils comprennent, mais en fait, ils ne comprennent pas. Ça vaut pour les journalistes. Il y a beaucoup de journalistes tech qui disent « Ah oui, mais les jeux vidéo, ceci, cela, on se souvient de il y a quelques années, ils disaient « Ah, les consoles, plus personne n'en a besoin. Nintendo devrait se mettre à faire des jeux sur toutes les plateformes. » Enfin, c'est des domaines qui sont voisins, qui sont cousins, et donc les journalistes tech pensent qu'ils comprennent. En fait, ils ne comprennent rien. Et on le retrouve chez Google et chez Amazon, d'ailleurs, dans certains domaines, non pas tous, mais il y a eu un rapport absolument édifiant de l'inévitable Jason Schreier en collaboration sur les efforts de Amazon Game Studios et pourquoi ils se plantent à chaque fois de manière aussi lamentable. Et en gros, c'est parce que ils arrivent avec leurs acquis, leurs certitudes de l'industrie tech qui, à leur décharge, il faut avouer qu'ils s'appliquent souvent à de nombreux domaines, mais les jeux vidéo, ça ne marche pas comme ça. Et ils se plantent tous dans le développement de jeux parce qu'ils ne font pas les choses de la bonne manière. Et il y a un autre truc aussi que je trouve saisissant, c'est le track record, le pedigree de Phil Harrison, qui est vraiment... Alors, je suis sûr qu'il était peut-être au mauvais endroit, au mauvais moment à chaque fois, mais tu t'en parlais d'ailleurs dans ta vidéo de Phil Harrison et de son histoire. Mais pour resituer un petit peu, il était chez Sony au moment de la PlayStation 3, et genre en haut de l'échelle. Il est passé chez Microsoft au moment du lancement de la Xbox One. Il était ensuite au board chez Infogrames, enfin, et il est maintenant à la tête de Stadia. C'est que des accidents industriels, mais de la plus grande ampleur. Alors, je ne sais pas quelle responsabilité il a, lui, dans toutes ces choses-là. J'avoue que je n'ai pas suivi très précisément le rôle précis et les décisions qu'il avait prises chez Sony et chez Microsoft. Mais là, chez Stadia, il était à la tête du truc. Je ne peux pas imaginer qu'il n'a pas au moins une part dans les décisions stratégiques de Stadia. Et depuis le début... On ne comprend pas ce qu'ils font. Tous les observateurs du milieu qui s'y connaissent un minimum trouvent que la stratégie de Google dans Stadia est pour le moins étrange et au pire vraiment vouée à l'échec. On en parle depuis un an et demi. Ils avaient toutes les cartes en main et ils se sont plantés complètement. Et là, c'est... je pense que ça sent très mauvais pour l'avenir au moins de la partie publique de Stadia. Et je dirais même, je pense qu'ils ont très certainement une carte à jouer pour le service en marque blanche, pour être un fournisseur de services, mais le choix technique qu'ils ont fait de développer une plateforme complètement indépendante pour laquelle il faut porter les jeux qu'on va porter dessus, c'est une barrière énorme pour les développeurs, surtout qu'ils ont de l'autre côté deux alternatives, Microsoft d'une part, et maintenant Amazon qui discrètement est arrivé avec Luna aux États-Unis et qui va arriver plus tard, qui lui tourne sous Windows. Et donc pour porter les jeux sur Luna, eh ben, c'est beaucoup plus facile. Alors que Stadia, non seulement la plateforme est plus très puissante aujourd'hui, elle est sortie un an avant la sortie des next-gen, elle était plus puissante que la old-gen, et maintenant elle est moins puissante que la next-gen, donc super. Et enfin bref, il y a une série d'erreurs stratégiques assez lamentables. JK, est-ce que toi tu vas nous dire que, enfin nous interpréter ça de manière un petit peu plus positive? Est-ce qu'on est en train de taper un petit peu trop méchamment sur Stadia ou... Est-ce que tu es d'accord avec nous?
Ouais, bah, enfin, je veux dire que comme c'est, ça va être compliqué de jouer l'avocat du diable pour le coup. Et surtout, je vous écoute depuis 10 minutes. C'est extrêmement intéressant. Et j'ai pas sur l'analyse du truc, j'ai pas foncièrement grand chose à rajouter. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ils ont fait une série d'erreurs. Et je pense que la première erreur, déjà, ça a été le modèle économique initialement annoncé, qui est incompréhensible, qui a toujours été relativement incompréhensible. Ils auraient dû, dès le départ, opter pour un truc type SVOD à la Game Pass, tu vois. Ça aurait été beaucoup
plus clair. Mais ils n'avaient pas assez de jeux, parce que pour porter les jeux, c'était trop compliqué. Donc, même ça, c'était pas une option. Voilà. Il y aurait eu 10 jeux, quoi. Encore que,
je suis d'accord, et c'est vrai
il l'aurait fait à 3 ou 4 euros pour aller dans ce sens-là. Disney Plus, ils ont commencé à 5 euros, il n'y avait pas grand-chose dessus, mais le prix était adapté. Il l'aurait fait à 3, 4, 5 euros, ils auraient augmenté le prix après, c'était possible. Ouais.
Exactement, et effectivement, derrière, il y avait des choix techniques qui ont été mauvais, parce qu'on rappelle quand même qu'en termes de technologie, de streaming, de latence, etc., c'est vrai que c'est l'un des meilleurs services actuellement disponibles. Ça marche extrêmement bien. Et ça c'est sûr. Et après, c'est marrant que vous faisiez le parallèle sur ces boîtes tech qui se lancent dans les jeux vidéo et qui se foirent. C'est vrai, mais ça n'a pas toujours été le cas. Enfin, tu vois, on se rappelle dans les années 90, quand Sony et Microsoft sont débarqués dans le jeu vidéo. Alors, pour Microsoft, ça a pris du temps, certes, ils ont fait plein d'erreurs. Sony, ils ont eu du bol dès le départ et ça a été un carton. Donc, je pense que c'est pas forcément une facilité. Une fatalité,
Sony, ils ont eu l'intelligence de s'allier avec Nintendo au début. Ouais. Et ils ont beaucoup, beaucoup appris avec Nintendo.
Oui,
et ils sont,
bien sûr.
Et Sony aussi, c'était la particularité de Sony, même s'ils ont beaucoup moins d'argent, de trésorerie que Microsoft et Google, la particularité de Sony, c'est qu'ils sont aussi bons en hardware qu'en software. Sony, ils se sont lancés très, très tôt dans tout ce qui est entertainment. En plus de donc Sony était connu pour les Walkman et ce genre de hardware, et ensuite ils se sont lancés très tôt dans la musique. Ils ont sûrement eu, je connais pas bien l'histoire de Sony dans la musique.
Sony Music, ça date un peu, ouais, ça date clairement. Ouais.
Ils ont eu très tôt l'habitude de travailler avec des artistes,
mais contenu. Mais Google aussi, ils font ce genre de choses, peut-être pas autant avec les artistes, mais c'est vrai que, comme tu le dis, Sony, ils se sont lancés, ils ont travaillé avec Nintendo, ils devaient sortir la PlayStation qui était un add-on CD pour Nintendo, ça n'a pas marché pour différentes raisons, mais ils avaient même développé des jeux et édité des jeux sur Super Nintendo avant ça. Ils ont appris, ils ont eu un petit peu d'humilité, quoi.
Ouais. Et quand ils ont commencé, quand ils ont lancé la première PlayStation, ils l'ont lancé avec des exclus. Des exclus.
Évidemment.
Ils sont alliés avec des noms qui étaient moins grands à l'époque, mais qui étaient déjà des grands noms de l'arcade.
Là où je suis d'accord, c'est que Google ou Amazon, même, ce sont avant tout, ça reste des sociétés de services, même si aujourd'hui ils font du hardware, mais c'est pas le cœur de leur métier. Sony et bon, Microsoft, c'est un peu différent, mais Sony dès le départ était quand même une boîte qui savait faire du matériel, et voilà, c'est une question de stratégie. Mais cela dit, tu vois, il y a aussi un parallèle à faire peut-être avec Apple qui prend une autre direction, mais en même temps, tu vois, c'est pareil. T'as l'impression que ça prend pas vraiment. Enfin, le Apple Arcade, on sait pas du tout si ça marche. Mais en même temps, ils ont pas les ambitions, en tout cas en termes d'effet d'annonce, le côté très orgueilleux que Google avait eu au moment de l'annonce de Stadia. Apple a jamais prétendu devenir le roi du gaming et faire disparaître les consoles, ce qu'a clairement prétendu Stadia à l'époque, tu vois.
Ouais, ça va peut-être venir avec une Apple TV gaming qui pourrait être annoncée dans les mois à venir, mais on n'y est pas encore. Vous le disiez, Sony et Microsoft d'ailleurs, ils ont eu l'intelligence de s'allier à des gens qui savaient faire des jeux. Sony a quand même racheté Bungie, qui avait beaucoup de succès sur le Mac à l'époque, mais ils savaient faire des jeux. Microsoft. Et Sony, ils étaient main dans la main avec Namco, ils sont allés chasser sur les terres de Nintendo avec Square à l'époque. On a bien compris, on ne va pas continuer à taper sur le cheval mort de Google, mais
C'est marrant que, Jika, tu parles de Apple Arcade, parce que au début, quand ils avaient annoncé Apple Arcade, j'étais là, oh, mais c'est tout pourri. Et en fait, ils ont été super malins, parce que l'image d'Apple Arcade, c'est des petits jeux qu'on fait sur son mobile, et puis voilà, sans trop se prendre la tête, ils ne sont pas du tout allés dans le type AAA et tout ça, et puis on fait un abonnement pas cher, comme ça. Acheter 2-3 jeux dans le mois, en fait, vous avez déjà rentabilisé votre abonnement Apple Arcade. Et Google, en fait, ils auraient peut-être dû prendre cette direction-là dans un premier temps. Peut-être prendre un entre-deux, proposer des jeux pour mobile, mais qui soient plus évolués que l'image que ce que Apple Arcade puisse se donner, plutôt que d'aller chasser sur les terres du AAA ou du gros jeu en 3D immersif. Oui.
Apple Arcade, c'était une réponse au fait qu'il est difficile d'avoir des jeux payants sur les plateformes mobiles. C'était un moyen d'avoir des jeux dont le business model n'était pas de vendre plein de microtransactions tout le temps, parce que c'était un problème pour un certain type de joueurs sur la plateforme d'Apple. Donc c'était un truc à côté qui essayait de résoudre un problème. Et en plus, ils ont eu l'intelligence de s'allier à des développeurs, de financer des jeux de tierce partie partie. Et bon, le fait que Apple Arcade ne marche pas de manière explosive, c'est pas la fin du monde pour Apple. Bon, c'est pas la fin du monde pour Google non plus que Stadia ne marche pas, mais...
Et puis Apple, juste là où ils réussissent bien mieux, c'est qu'ils sont en train tranquillement de devenir aussi une société de service. Et maintenant, Apple Arcade, c'est inclus dans ton abonnement Apple One. C'est un truc en plus, tu vois, un peu comme xCloud, ce qu'on appelait xCloud aujourd'hui, qui est aujourd'hui une composante du Game Pass. Voilà, ça fait partie d'un package entier. Et pour moi, la seule façon de vendre du cloud gaming ou du streaming ou ce genre d'offre, c'est via ce genre de modèle économique. Je ne vois pas comment ça pourrait marcher.
Bah, disons que ce vers quoi la conclusion à laquelle on arrive, qui était un petit peu la conclusion qu'on avait dès le lancement de Stadia, c'est que techniquement, c'est excellent. Et on dit dans la chatroom, ah, Stadia n'est pas mort. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Stadia n'est pas mort. Le problème de Stadia, c'était pas la technique. Le problème, c'était l'offre commerciale. Elle a toujours été illisible. À part pour certains, il y a toujours des gens, quand je dis ça, qui viennent dans les commentaires dire, ah, mais non, moi, Stadia, j'aime beaucoup, je m'en sers parce que j'ai pas de machine pour jouer. Ok, d'accord. Mais c'est une exception, on va dire. Le marché, en général, n'est pas intéressé par cette seule offre. Et dans tous les cas, l'offre commerciale était illisible et clairement n'a pas réussi à atteindre ses objectifs, sinon il ne serait pas en train de faire ça maintenant. Par contre, l'offre technique est là tout à fait excellente, bénéficie de l'expertise de Google et je pense qu'ils ont tout à fait l'opportunité de la recycler en quelque chose de tout à fait intéressant pour tous les développeurs parce que le problème du streaming, c'est qu'il y a en gros 4 sociétés au monde qui ont l'infrastructure nécessaire pour faire ça. 4, pas une de plus. Il y a Google, Amazon, Facebook et Microsoft. On pourrait arguer du fait qu'il y en a peut-être une ou deux autres qui pourraient le faire, mais en gros, c'est ces 4-là. Et il y a énormément de développeurs de jeux qui voudront à terme profiter de la technologie streaming. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais dans 1, 2, 3 ans, ça va se généraliser comme l'une des pratiques d'accès aux jeux vidéo. Et donc, ils auront besoin des services de ces sociétés, Microsoft, Amazon, Apple, et comme je le disais, Facebook. Mais Facebook, ils n'ont pas l'air de vouloir vendre leur infrastructure en location à d'autres développeurs. Donc, Google a tout à fait une opportunité de devenir l'un de ces acteurs de back-end de services de ce type. Et je pense qu'ils vont le faire. Mais ils auraient pu être une plateforme, une alternative crédible à Sony et Microsoft et Nintendo s'ils avaient bien joué leurs cartes. Et ils avaient toutes les cartes il y a un an et demi et ils les ont très mal jouées. Donc bon, ils se rabattent sur ça, ce qui sera certainement un business de multimilliards de dollars à terme peut-être. Mais pardon, Gia, tu voulais ajouter quelque chose ?
Ouais, non, ils ont déjà commencé en fait dans cette voie en incluant Ubisoft Plus. C'est l'abonnement de service d'Ubisoft et qui est typiquement dans le cas que tu décris, c'est-à-dire qu'ils sont à la recherche de plateformes sur lesquelles diffuser leurs jeux. Et pour ça, c'est très bien. Je pense que je pensais à un jeu de mots pourri. Il devrait l'appeler le service Stadia Phoenix, celui qui renaît de ses cendres. Et l'avenir de Stadia passe par les deals qu'ils pourront avoir avec les éditeurs qui seront dans ce besoin-là. Donc, est-ce que ça restera assez longtemps pour que la demande soit assez forte pour qu'ils continuent le service ? C'est là la grande question, je pense.
Ouais. Là où c'est dommage, c'est qu'ils avaient un an et demi d'avance, mais aujourd'hui, ils ont Luna qui arrive d'Amazon pour leur faire concurrence, Microsoft qui a clairement développé son système de cloud streaming. Donc, bref, on verra comment ça se développe, mais je crois que on soit intéressé ou pas par Stadia dans sa version actuelle, je pense qu'il y a clairement une opportunité manquée. Et puis, moi, j'ai une pensée pour Jade Raymond qui, après Assassin's Creed, a un petit peu s'est fait balader de société en société. Et je suis sûr que Stadia l'a appelé un jour et a dit « Écoute, on va bouffer le monde ». On me dit « Luna n'est pas présent en Europe », bien sûr. Mais d'ici la fin de l'année, ils vont sortir en live partout. Et je pense qu'ils vont arriver en Europe au plus tard en 2022 maximum, je pense que ça va arriver très très vite. Hein. Donc Luna, il ne faut pas se dire « Ah, c'est qu'aux États-Unis, donc ça ne sert à rien ». Mais Jade Raymond, à mon avis, ils lui ont ouvert les bras en disant « On va conquérir le monde avec Stadia, tu vas voir, c'est l'avenir ». Un an et demi plus tard, parce que quelqu'un d'un peu plus haut dans l'organisation de Google a dit « Non, bah, finalement, ce n'est pas cool, vous ne gagnez pas d'argent assez vite ». On ferme les studios, elle doit être furieuse. Et je ne me souviens plus chez qui elle était avant, ce n'était pas chez EA où elle n'a rien réussi à sortir.
Elle ne bossait pas sur le jeu Star Wars annulé
Je crois, oui.
Elle bossé chez Yemotive ou un truc comme ça.
Ouais, ouais.
Effectivement, elle a pas eu de bol. Elle a pas eu de bol.
Ouais, vraiment, la pauvre. Parce qu'au final, tu sais, on parle tout le temps de Jade Raymond comme « Ah, c'est une super développeuse, super machin ». Et c'est vrai que, au départ, elle était à l'origine d'Assassin's Creed. Mais depuis, pas par sa faute, elle n'a plus rien fait. Et ça fait quoi, 10 ans, 15 ans? Donc, bon, bref.
Elle n'a plus rien fait, notable en tout cas. Mais
qui est sorti.
Oui. Et puis, à l'époque, il faut dire ce qui est. À l'époque d'Assassin's Creed, elle a été mise en avant pour les mauvaises raisons. On le sait très bien. Enfin, je veux dire, parce que c'est une femme qui est assez belle et que forcément, ça plaisait à un certain public. Et il la mettait en avant clairement pour ça, quoi. Ça démérite absolument pas ce qu'elle a pu faire au sein du studio. Mais c'est vrai qu'elle a une médiatisation à l'époque qui était peut-être pas forcément justifiée absolument sur tout.
Excuse-moi, il faut quand même que je dise quelque chose.
Je t'en prie.
Elle a été médiatisée, certes, c'est une femme qui est une belle femme, certes, mais à l'époque, il y avait eu d'autres gars qui étaient médiatisés aussi. On ne leur a jamais dit qu'ils étaient médiatisés parce qu'ils avaient les cheveux plus longs que les autres ou plus beaux que les autres. Donc, elle a des atouts. Elle a fait. Je connais pas bien le parcours de Jade Raymond, mais que ce soit vrai ou pas, je trouve que il n'y a pas lieu de dire ça d'une femme qui a réussi dans le jeu vidéo. Excuse-moi.
Attention.
C'est juste que tu vois, on ne dit pas Peter Molyneux, il a réussi parce qu'il était plus maigre que les autres.
Non, je te vois,
il a fait des grandes choses. C'est une légende, ce truc. Mais on ne dit pas, Jade Raymond, elle a été mise en avant parce qu'elle était belle. Elle a fait quelque chose, depuis, elle n'a pas fait grand-chose.
Ce que je dirais quand même, c'est que Jade Raymond, elle était productrice sur Assassin's Creed et executive productrice sur Assassin's Creed 2 et Assassin's Creed Bloodlines. Et depuis... Bon, elle a pas. Elle était executive producer sur Watch Dogs aussi, le premier de 2014. Donc, il faut avouer que depuis, elle a pas eu énormément de chance sans doute parce qu'elle s'est retrouvée dans des studios qui se sont fait fermer. Mais je trouve qu'elle jouit, sans juger quoi que ce soit d'autre, je trouve qu'elle jouit d'une image qui, à mon sens, n'est pas comment dire, plus positive que ce qu'elle a fait, parce que c'est très bien Assassin's Creed, mais c'est il y a 10 ans, quoi. Je sais pas. Moi, si on me dit qu'est-ce qu'elle a fait, Jade Raymond, il y a Assassin's Creed il y a 10 ans. Et à part ça, après que ça soit pour telle ou telle raison, on va pas en parler spécifiquement, mais tu vois, Gia, moi, je trouve que on met en avant Jade Raymond et... Je trouve pas que ça soit aujourd'hui si justifié que ça. T'as pas l'air d'accord. Je suis.
Je ne connais pas les détails du développement d'Assassin's Creed et tout ça. Je suis pas allé voir là-dedans parce que j'ai joué au jeu, j'ai adoré. J'ai appris très très tard qui était Jade Raymond, comme quoi j'étais complètement déconnectée des jeux à un moment donné. Je suis d'accord, ok, très bien, super. Mais je ne sais pas si vous voyez la nuance de ce que j'essaye de communiquer.
Si, bien sûr. Non, mais bien sûr, je comprends tout à fait.
On dit ça parce que c'est une belle femme, mais pour un gars, on n'aurait pas dit ça. On aurait dit, il n'a rien fait pendant 15 ans, il n'a pas eu de chance, il était mauvais ou tout ça, ok. Mais on ne dit pas. C'est juste ça qui m'a fait tiquer. Mais je sais bien que c'était pas avec un mauvais esprit ou quoi que ce soit. C'est juste que le fait de dire ça, ça rentre ça fait marcher la machine et puis ça fait planter ce genre d'idées dans ce genre de choses à une époque où on est en 2021. Je pense qu'on peut peut-être faire un peu attention.
On est en 2021, aujourd'hui on ne fait plus ce genre de choses, heureusement. Mais à l'époque, en 2008-2007, c'était pas du tout la même chose. C'est-à-dire que si on mettait en avant Jade Raymond, c'est parce qu'elle était productrice, etc. Je suis d'accord, mais c'est parce qu'elle présentait bien. Et elle présentait bien au sein d'un public qui, quoi qu'on en dise, était majoritairement masculin, etc. etc. C'est mal de faire ça. Enfin, je veux dire, je suis pas du tout en train de défendre ça. C'est juste qu'à cette époque-là, il y avait aussi cet aspect-là qui était présent malheureusement, quoi.
Bon, je pense qu'on va...
Aujourd'hui, c'est beaucoup moins bien.
Non, on s'est compris, c'était juste la... je comprends que c'était l'époque et tout ça, il n'y a pas de souci. Hein. C'est juste que, sur le coup, ça m'a fait tiquer et que ça valait la peine de ne pas laisser passer comme ça. Voilà. Ouais.
Et je suis d'accord avec toi, Gia, c'est sûr que c'est le genre de choses qui peuvent être mal interprétées, donc il vaut mieux le préciser.
Et c'est que si on te prend un extrait juste là... Oh purée, c'est difficile à entendre.
Je suis... Je suis complètement d'accord avec toi, Gia. Je pense quand même qu'il y a dans le parcours de Jade Raymond des choses intéressantes à noter et qui peuvent être très mal interprétées. Ce qui est sûr maintenant, c'est qu'à mon avis, elle est hyper frustrée de ce qui est en train de se passer parce que, comme on disait, elle a fait un voyage chez EA et chez Stadia. Et on lui a coupé l'herbe sous le pied à chaque fois. Et je pense qu'elle n'est vraiment pas contente de la manière dont ça se termine aujourd'hui, quoi. Bref, je voulais dire juste un mot sur elle, parce que plus pour la plaindre de ce qui est en train de se passer qu'autre chose. Mais on va avancer parce qu'il y a d'autres choses à dire et d'autres sujets à couvrir. D'une part, les jeux auxquels on a joué ces derniers temps, avant de parler des jeux d'ailleurs, je voudrais parler quand même de Patreon et du soutien que vous pouvez amener à l'émission sur Patreon. Si vous appréciez l'émission et ce qu'on fait, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvjeux et vous pourrez décider de donner 1 ou 2 ou 3 euros à l'émission et bénéficier de cette manière de bonus absolument incroyables, comme par exemple le fait de ne pas avoir de pub, de ne pas avoir de promo dans l'émission. Vous aurez aussi les timecodes des différents sujets qu'on couvre dans l'émission. Et puis, vous pouvez également, si vous le souhaitez, arriver à un niveau où vous avez accès au Discord privé, en plus du Discord public qui est accessible à tout le monde. Et évidemment, le plus important de tout ça, c'est que vous aurez le plaisir d'avoir la conscience tellement, vous serez tellement heureux intellectuellement de vous dire que vous soutenez une émission que vous appréciez, que ça n'a vraiment pas de prix. Enfin, vraiment pas de prix, si, ça a un petit prix sur Patreon, c'est 1 euro ou 2 euros par épisode, et c'est vous qui choisissez ce que vous faites là-bas. C'est sur patreon.com/rdvtech, et j'apprécie énormément le soutien que vous pouvez nous amener. Entre parenthèses, si vous avez aussi une minute à perdre et que vous êtes sur votre téléphone, vous pourriez mettre un petit commentaire sur iTunes. Ça fait énormément de bien parce que iTunes est l'un des moyens par lesquels... Enfin, iTunes, Apple Podcast, c'est l'un des moyens par lesquels les auditeurs découvrent l'émission et on est plus présent dans les résultats de recherche quand il y a plus de commentaires et plus de notes positives. Donc, si vous avez une minute, vraiment, c'est un moyen avec lequel vous pouvez nous aider, c'est de mettre un petit commentaire et une note sur Apple Podcast ou d'ailleurs sur n'importe quelle application de podcast que vous utilisez. Vous pouvez le faire maintenant, tiens, tout de suite, si vous le souhaitez. Et on vous remercie que ce soit pour le soutien sur Patreon ou pour les commentaires sur iTunes.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bon, est-ce qu'il y a des jeux auxquels vous êtes en train de jouer en ce moment qui valent la peine d'être discutés ? JK, tiens, parlons d'autre chose que de Jade. Est-ce qu'il y a des jeux... Est-ce que tu joues...
J'ai joué à Assassin's Creed. Vous, non, je plaisante. m'entends, là ?
Oui, oui, on t'entend. Je me demandais si tu jouais à Hitman. Je te vois bien jouer à Hitman, toi.
Écoute, pas vraiment, malheureusement. Ça m'attire énormément. J'ai jamais eu l'occasion de m'y mettre vraiment. Enfin, à chaque fois, je m'y suis mis, puis j'avais pas le temps. Et en plus, le 3 me botte énormément. Mais il faudrait limite que je fasse maintenant les 3, parce qu'a priori, c'est vraiment un tout maintenant, Hitman 1, 2, 3. Bah, d'ailleurs, je crois que tu as des versions où tu as les 3 jeux qui sont inclus. Non, par contre, j'ai pas mal joué quand même ces derniers temps. Je sais pas si tu veux que je te parle de mes 3 jeux du moment. Ou
si, vas-y. De Medium surtout, nous, on n'y a pas joué la semaine dernière. Donc, vas-y, dis-nous de quoi s'agit-il.
Vous avez pas parlé de The Medium. Alors, The Medium, c'est un jeu que j'attendais beaucoup, puisque c'est un jeu fait par un studio que j'aime vraiment bien. Donc, c'est le nouveau jeu de Bloober Team, donc, qui est un studio polonais, qui s'est fait connaître récemment ces dernières années, surtout pour des jeux un peu à tendance horrifique à la première personne. Donc, Observer, par exemple, qui est potentiellement leur meilleur jeu. Blair Witch, qui est sorti aussi il y a l'année dernière, je crois, qui est un super jeu, qui est vraiment un super jeu, et Layers of Fear. Et là, en fait, The Medium, c'était vraiment leur nouveau projet, leur plus gros projet. Enfin, c'est leur plus gros projet en termes d'ambition, en termes de budget, etc. À tel point que ils ont un soutien assez fort du côté de chez Microsoft, puisque bon, le jeu est dans le Game Pass, hein, je le précise. C'est l'une des rares exclusivités Xbox Series X. Alors, en tout cas, sur console, c'est-à-dire qu'il sort que sur Series X, il sort pas sur One, et il sort sur PC aussi. Évidemment, il sort également sur PC. En fait. Je vais tout de suite mettre les pieds dans le plat. C'est un jeu qui déborde d'ambition et on voit bien qu'il y a plus de budget, mais à mon sens, c'est assez raté. Parce qu'en fait, alors, je peux le pitcher. En fait, c'est un jeu d'horreur qui se joue un peu à l'ancienne, donc avec des caméras fixes et un personnage qu'on promène dans le décor, une jeune femme qui s'appelle Marianne, qui a en fait un pouvoir de médium et qui peut qui peut évoluer entre deux réalités, quoi. Un peu comme dans un Stranger Things, tu vois, t'as la réalité et t'as la version upside down. Et d'ailleurs, ce qui est très chouette, c'est que régulièrement à l'écran, t'as les deux réalités qui sont, en fait, l'écran est coupé en deux et en haut t'as la réalité et en bas t'as l'upside down, donc ça donne des petites énigmes un peu sympas. Sauf qu'en fait le jeu a deux défauts énormes. Alors en termes de qualité, je vais tout de suite le dire, la meilleure qualité, c'est que c'est un jeu très beau qui a des moments artistiquement parlant qui sont hyper chouettes. Le souci, c'est que d'une manière générale, on s'ennuie, et je m'ennuie énormément à y jouer. Et ça fait pas peur du tout. Enfin, vraiment, je trouve que pour un jeu d'horreur,
il reste pas grand chose. Hein. S'il est chiant et que fait pas peur.
En fait, le souci, c'est que à jouer, en fait, ça mélange un peu des énigmes assez simples à l'ancienne, avec des phases un peu d'infiltration et de fuite qui sont pas mal. C'est à peu près réussi. Mais il y a un rythme qui est un peu lent. En fait, ils ont un problème, Bloober Team, c'est que jusqu'à présent, ils avaient fait surtout des jeux à la première personne, avec des jeux à la première personne, avec très peu de PNJ, donc très peu d'animations, très peu de choses comme ça. Là, il faut un jeu où on voit le personnage, etc., et les animations faciales sont totalement ratées. Du coup, ça manque malheureusement de vie, et du coup, ça aide pas à apprécier l'histoire qui au demeurant est plutôt intéressante. Donc c'est, je suis presque à la fin et je t'avoue que je me force un peu. Me force un peu à le finir, mais...
T'as même pas parlé du gimmick du jeu, qui est ces deux mondes... Enfin, si, tu en as parlé, mais je veux dire, du fait que ça soit séparé en deux écrans qu'on peut voir en même temps à plein de moments du jeu, est-ce que c'est inutile, en fait ?
Non, c'est pas inutile, c'est sans doute la meilleure idée du jeu, mais c'est scripté, je veux dire, c'est pas du tout à volonté, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où tu peux passer de l'un à l'autre, mais de manière très très scriptée. Il y a donc des interactions, tu vas faire des choses dans l'upside down qui vont se répercuter dans le monde réel. C'est rigolo. Par contre, et encore une fois, artistiquement, c'est toute cette partie dans cet univers parallèle est super belle. Tu sens clairement l'influence de Silent Hill. En fait, ils veulent faire leur Silent Hill à tel point qu'ils ont récupéré Akira Yamaoka à la bande son, qui était le compositeur de Silent Hill. Mais il y a pas la flamme en plus, il y a pas le génie d'un Silent Hill, il y a pas le malaise que tu peux avoir en jouant à Silent Hill. C'est super dommage parce que c'est un studio que j'aime beaucoup et je trouve que là ça marche pas trop, quoi.
Ils sont ratés, ça peut arriver, hein. D'accord.
Ouais, exactement.
Bon, malheureusement, J'y a, est-ce qu'il y a des jeux auxquels tu as joué ou est-ce que j'enchaîne ?
Bah, j'ai joué un peu à The Medium. C'est, je partage un peu l'avis de JK. C'est que, ce jeu, il a eu le malheur et le bonheur d'être plus ou moins le représentant, le sauveur de la Xbox Series X. Et c'est un peu l'image qu'on avait de ce jeu-là. C'est pour ça que tout le monde l'attendait avec impatience. On l'attendait tous. Quoi. Et c'est vrai que quand il est arrivé, on a été un petit peu déçu par rapport à la réalisation. Mais le concept est là. Le concept est super intéressant. Moi, je suis pas aussi loin que toi, je pense. J'en suis toujours au début, et c'est vrai que le fait de basculer d'un passage à l'autre, c'est pas mal du tout. Et ouais, un petit peu déçu quand même, mais je vais m'accrocher. Pourtant, j'aime pas les jeux d'horreur. Hein.
Mais écoute, s'il fait pas peur, comme dit JK, ça va. Hein, ça a pas l'air d'être trop horreur.
Je sais pas si mon niveau d'endurance est horrible, si je suis aussi bien rodé.
Bon, donc oui, effectivement, il a l'air un petit peu décevant. C'est vrai que c'est la seule exclue Xbox Series X, mais bon, dommage. Moi, j'ai un petit peu joué à, comment il s'appelle ? Destruction All-Stars. Tiens, on va mettre un trailer du jeu. Destruction All-Stars, c'est un jeu de Sony, un jeu qui est censé être une exclue PlayStation 5 et qui est offert avec pas le Game Pass, mais le PlayStation Plus ce mois-ci. Donc c'est vraiment un jeu qui a, j'ai l'impression, été fait pour ça. C'est le genre de jeu qui sort en exclu avec une console et qui est pas le jeu le plus ambitieux de la Terre. En l'occurrence, c'est un jeu de combat en véhicule dont le gimmick est qu'on peut sortir du véhicule à tout moment pour se battre contre les véhicules à pied. Et c'est vraiment un jeu hyper simple qui est, comme je le disais, pas très ambitieux. J'y ai joué peut-être vraiment pas longtemps, hein, genre une demi-heure à peine pour le tester, mais j'ai presque l'impression d'en avoir fait le tour en une demi-heure. Peut-être qu'il y a une profondeur cachée que je ne soupçonne pas, mais c'est un peu, comment dire, si on veut penser à un jeu hyper simple en bagnole, évidemment on va penser tout de suite à, le jeu de foot Rocket League. Et on sent que dans Rocket League, il y a une profondeur dans la conception qui est là tout de suite. Sur celui-là, on est vraiment au ras des pâquerettes de l'intention de design, du document de design. Genre, il y a quelqu'un qui a dit « Attends, est-ce qu'on pourrait faire un jeu de bagnole où on se rentre dedans, mais on peut aussi sortir des bagnoles ?»« Ah ouais, super !» Ils ont fait plusieurs personnages, qui n'ont pas énormément de charisme d'ailleurs, et qui ont chacun des coups spéciaux, des véhicules spéciaux. Bon, voilà, c'est un jeu qui est offert avec le game, le PlayStation Plus, et ça va pas beaucoup plus loin, on va dire. Je suis pas, c'est même pas la peine d'en parler beaucoup plus longtemps que ça. Si quelqu'un y a joué plus longtemps et a trouvé une profondeur que moi j'avais pas trouvée, dites-moi. Mais là, il y a pas de bonne surprise en tout cas, de mon point de vue.
Ouais, non, ça puis Artie, je sais pas, ça a l'air tellement,
générique.
Générique. Voilà, c'est le terme que je cherchais, c'est générique.
Complètement.
Est-ce que j'ai 5 minutes pour parler, par contre, d'un jeu que j'aime beaucoup, c'est Olija.
Mais alors, j'allais revenir vers toi parce qu'il y a deux autres jeux effectivement auxquels tu as joué, Olija et Cyber Shadow. Mais vas-y, dis-nous tout sur Olija. Ouais,
Olija, par contre, c'est vraiment un petit coup de cœur. Là, je suis. Bah, en fait, juste avant que d'enregistrer l'émission, j'étais en train d'essayer de battre le boss de fin. Donc, je pense qu'à la fin. En fait, c'est un jeu. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un nouveau jeu édité par Devolver. Et c'est un jeu. Alors, très Devolver, c'est-à-dire que c'est en pixel art un peu cracra, pas du tout cracra, mais c'est assez grossier. Par contre, c'est super beau. Enfin, il y a vraiment une ambiance très particulière et ça se joue un peu comme les vieux jeux d'action aventure français de l'époque, genre Another World, Flashback, ce genre de truc. C'est-à-dire que c'est assez ouvert, c'est pas vraiment linéaire. On incarne c'est dans une ambiance qui rappelle un peu le Japon féodal, mais avec beaucoup de fantastique. Donc c'est un univers assez exotique, assez cool. Et on incarne un personnage en fait qui s'échoue, en fait un naufragé qui échoue dans un monde qu'il ne connaît pas. et qui doit lever une malédiction. Bon, c'est très classique en termes de scénario. Par contre, il y a un système de combat qui est hyper chouette à base de... en fait, on a très rapidement, on met la main sur une sorte de harpon qu'on peut lancer sur à peu près n'importe quel objet dans le décor pour se téléporter automatiquement à cet endroit-là. Donc, à la fois, ça permet de faire des combats ultra dynamiques et il y a pas mal d'énigmes qui utilisent ce système. Du coup, c'est très sympa. C'est vraiment un jeu qui est basé sur... T'as pas d'objectif particulier, t'as pas assez à toi de trouver en fait où il faut aller. C'est vraiment, il y a pas mal d'exploration. T'es un petit peu laissé à toi-même. Mais c'est super beau, c'est très poétique. Il y a plein de petits moments très. En fait, il y a si je citais Another World et Flashback au début, c'est qu'il y a vraiment cet esprit un peu. On veut essayer de faire des moments un peu cinématographiques avec peu de moyens. Il y a vraiment des belles scènes avec très très fortes, avec des zooms, des dézooms, des gros plans. Enfin, vraiment, il y a une identité très, 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 très forte dans le jeu. Son seul défaut, et pour moi, ce n'est pas vraiment un, c'est que c'est pas très long. En gros, en 5 heures, c'est bouclé. Mais c'est vraiment un super jeu. Je vous conseille, si vous aimez ce genre de truc, c'est vraiment super.
Olija, O-L-I-J-A.
Ouais, Olija. C'est dispo sur Switch et console. Je crois qu'il est, je me demande s'il part en Game Pass. Moi, j'ai pris sur Switch parce que c'est typiquement le genre de jeu auquel j'ai envie de jouer sur Switch. Donc, voilà.
Ah, s'il est sur Switch, ça pourrait être... pardon, s'il est sur...
Ouais, et en plus, il est pas cher. Il coûte 14€, je crois, sur Switch, mais il est potentiellement dans le Game Pass, faut vérifier.
Bah, je vais regarder dans le Game Pass, bien sûr. Mais oui, ça pourrait être intéressant, effectivement.
C'est cool.
Cyber Shadow, on est encore dans le rétro gaming. C'est comment ?
Ouais, alors là, ouais... Cyber Shadow, je passerai plus vite que ça. C'est édité par Yacht Club Games, donc les créateurs de Shovel Knight, et c'est complètement dans cet esprit-là. C'est-à-dire que c'est un Ninja Gaiden en fait. C'est Ninja Gaiden version NES avec évidemment un peu plus de modernité, avec des systèmes d'amélioration, etc. Si vous aimez le délire, c'est vraiment très cool. C'est très maniable. C'est très joli dans son genre, évidemment. Il y a des super musiques. Par contre, c'est super dur. Enfin, vraiment, il y a des moments à s'arracher les cheveux, comme Ninja Gaiden, hein, vraiment. Donc, je le conseille vraiment pour celles et ceux qui adorent les jeux néo-rétro de ce style-là. Là, ça passe tout seul et qui sont prêts à un peu de challenge. Voilà, c'est pas forcément pour tout le monde, mais c'est un genre suffisamment populaire aujourd'hui pour quand même qu'on en parle. Et moi, j'aime bien. Donc là, en fait, je vais finir Olija. Je l'ai mis de côté pour faire Olija et je pense que je vais me remettre dessus. Quoi.
Très bien. Gia, est-ce qu'il y a un autre jeu dont tu veux parler ou c'est terminé?
Cyber Shadow, là, ça me tente bien. J'aime bien les Ninja Gaiden. Ouais. C'est cool comme ça.
Tu devras avoir tout.
Ouais.
Les jeux auxquels je joue, là en ce moment, l'embargo vient juste de lever. Là, je me suis mise à Nioh 2. Et Nioh 2, c'est le remaster sur PlayStation 5. Alors, je trouvais Demon's Souls dur. Là, on est au-dessus encore. Je souffre, mais il est bien fait. Il est très très bien. Et donc je vais essayer d'avancer, quoi, mais je suis pas sûr que je vais vraiment m'accrocher. Mais il est bien. Pour ceux qui aiment le genre, c'est très bien.
Est-ce qu'il est très très beau sur PlayStation 5 ou c'est bon la version PS4 un petit peu plus fine?
J'ai pas joué à la version PS4, mais là je trouve que c'est bien fait. Je trouve que au niveau de la modélisation des persos, des boss, genre de trucs. Enfin, si on aime bien l'ambiance Japon médiéval, c'est super, quoi. Et moi, c'est ma tasse de thé, donc je m'accroche. Et par contre, il est dur, hein. Il est vraiment costaud. Et puis sinon, l'autre jeu auquel je joue, là, c'est Control, qui est aussi dans le PlayStation Plus ce mois-ci.
Oui.
Donc Control remasterisé pour les consoles next-gen, plus proche des versions PC. À des versions PC avec des grosses cartes graphiques, avec un tout petit peu de ray tracing, juste ce qu'il faut pour nous faire sentir que c'est bien. Et c'est bien, c'est bien, c'est vraiment, vraiment beau. Hein. Par rapport, j'avais commencé à jouer sur PlayStation 4, et là, sur PS5, je trouve qu'il y a un vrai bon. Voilà, plutôt contente ce mois-ci, quand même, avec tout ce qui arrive. Là. C'est plutôt bien. Juste après Noël, on a encore plein de bons jeux comme ça. Vraiment, vraiment bien.
Ah, c'est effectivement sur le PlayStation Plus. Et il est dans le Game Pass aussi. Donc là, vraiment, il n'y a pas de raison de ne pas s'y mettre à Control.
Alors, sur le Game Pass, ce n'est pas la version next-gen, attention. C'est la version Xbox One.
C'est pas la version Ultimate, comment elle s'appelle ? Ultimate Edition ? D'accord. Bon, bah,
ce n'est pas la version Ultimate. C'est dommage.
C'est dommage.
Je sais pas comment ils vont.
Bah, peut-être qu'ils vont l'inclure à un moment, ça ne me surprendrait pas, mais... en tout cas, bon, d'accord, c'est pas encore le cas. Par contre, on nous confirme que Cyber Shadow est dans le Game Pass pour la version.
Bonne nouvelle, ça.
Ouais. Moi, j'ai joué aussi à d'autres jeux. J'ai en fait, en attendant le jeu que j'attends en février, c'est-à-dire Super Mario 3D World, j'ai fini enfin New Super Mario Bros. U Deluxe, donc la version New Super Mario Bros. Sur Switch. Et j'avoue que j'y avais pas joué depuis des mois et des mois, depuis la sortie en fait, et je me suis réexcité pour Mario avec la sortie, l'arrivée de 3D World, et je me suis relancé, en fait j'étais à l'avant-dernier monde. Pfiouf, c'était bien, bien difficile. Hein. J'ai eu beaucoup de mal, j'ai perdu beaucoup de vie et j'ai été presque surpris. Mais entre-temps, il y a aussi mon fils qui s'est mis tout seul, bon, je l'ai peut-être un petit peu encouragé, à Mario Odyssey. Et c'est trop mignon. Maintenant, il me dit « Papa, je veux jouer à Mario Odyssey, je veux aller au Pays des Chapeaux !» Donc il va au Pays des Chapeaux et il casse des boîtes. Et après, je lui dis « Eh, mais là-bas, il y a une autre boîte !» Et il me dit « Oh non, il y a un méchant là-bas, je veux pas voir les méchants !» Donc ok, on part de... En fait, c'est un petit Goomba qui saute et le petit Goomba lui fait peur. C'est trop mignon. Mais donc, et je lui ai dit qu'il y a Super Mario 3D World qui va arriver, où Mario, il a un déguisement de chat. Et maintenant, tous les jours, il me dit « Papa, il y a le nouveau Mario maintenant ?» Et je lui dis « Non, non, pas encore. Ah, mais dans le nouveau Mario, on peut être déguisé en chat !» Et donc, il est tout excité. Bref, voilà. Donc, il a sa petite demi-heure de Mario Odyssey deux fois par semaine et il est très content. Et il arrive maintenant à contrôler vachement bien. Je suis très impressionné.
En fait, c'est la question que je me pose parce que... il a quel âge ton fils ? Il
a tout juste 3 ans.
Donc il est plus jeune que le mien, effectivement, et c'est vrai que le mien, la 3D, enfin les déplacements dans un monde en 3D, c'est encore compliqué. Sur la 2D, il y arrive un petit peu, mais j'ai réussi à le faire jouer vite fait à Miles Morales la dernière fois, parce qu'il adore Spider-Man. Bon, il arrivait à 30 ans à s'accrocher comme il pouvait sur une... Mais j'ai l'impression que enfin, je sais pas, pour un jeune enfant, c'est vrai qu'appréhender la 3D, je pense que c'est pas simple.
Ah ben, il a mis un moment, il a joué peut-être, il a dû faire 3-4 sessions de Mario, donc il a commencé il y a peut-être 2 semaines, et au début, oui, c'était genre, alors attends, je dois aller dans cette direction. J'avance dans cette direction, ok, stop, maintenant je vais dans une autre direction. Alors attends, j'attends... Je vais dans cette direction. Et maintenant, il commence là à pouvoir contrôler un petit peu. Hier, j'étais surpris. Hier, il est rentré de la crèche. Il m'a dit oh, est-ce que je peux jouer, papa, s'il te plaît, machin. Donc, on a fait une petite demi-heure. Et il arrivait vraiment à contrôler, quoi. J'étais surpris. Donc, bon, ça vient. Mais bon, c'est. Ça vient des gènes, tu sais, c'est ça, c'est les capacités. Clairement, JK, tu n'es pas très très bon dans ce domaine du jeu vidéo, je suis désolé.
Moi, mon délire, c'est les vieux jeux en 2D, genre Cyber Shadow, tu vois. Donc, forcément, le pauvre, si je le mets devant Cyber Shadow,
ça vient vite, hein, la 3D, hein. Ça vient vite. C'est marrant que tu parles de Mario Odyssey, moi, il est sorti il y a 2 ans maintenant, 3 ans.
Ouais, 3 ans, Mario, je crois.
Mmh. Ouais. Oh. Et je donne, enfin tu vois, je prends le jeu et puis je montre à ma petite, ah tiens regarde il y a Mario et tout, et puis on avait déjà eu l'initiation, tu sais, sur Yoshi, sur Kirby, et puis sur tous les petits jeux qui n'étaient pas de la vraie 3D, quoi. Et un jour je reviens, elle fait voilà, je suis arrivée là, et je regarde le jeu, ah ouais, elle est arrivée au troisième monde.
Attends, mais à quel âge?
Elle avait 5 ans, 6 ans à l'époque, quelque chose comme ça. Donc ça vient très, très vite. Hein.
D'accord.
Attention, en fait, c'est le fait d'être habitué quand ça commence à 3 ans, 4 ans, et puis en fait, il s'habitue très, très vite. Donc c'est assez étonnant. Et quand je fais le même parallèle, en fait, avec nous qui avons grandi avec des jeux vidéo en 2D, hein, quand la 3D est arrivée, on a eu un temps d'adaptation qui était, en comparaison, assez long, je trouve. Et la génération là qui va arriver, ça va, les joueurs qui vont arriver, ça va être du survitaminé, à mon avis. Mmh.
Bah, clairement, ça arrive assez vite. Donc, bon, moi, j'ai espoir qu'on puisse jouer en coop dans quelques mois. Je suis peut-être un petit peu ambitieux, mais en tout cas, pour le moment, ça se passe pas trop mal. Bon, ça suffit ces histoires d'enfants. Revenons à des choses sérieuses, comme par exemple les bilans et les chiffres et les bilans financiers des grandes sociétés. Alors, vous le savez, hein, quand on parle de bilan, nous, on ne fait jamais les trucs chiants. On tire les éléments les plus intéressants et les plus importants de ces sujets. Et donc, on va parler d'abord des constructeurs et puis des développeurs. Et puis après, il y a quelques news qui nous restent en vrac. Mais pour les constructeurs, les choses que je retiens, et vous pourrez me dire tous les deux s'il y a d'autres infos que j'ai ratées ou vos commentaires dessus. Du côté de Sony, ils ont vendu 4,5 millions de PlayStation 5 sur les trois premiers mois de la sortie. Enfin, sur les trois derniers mois de l'année. Je crois qu'ils comptent, je ne sais plus, jusqu'à... Quand ils comptent d'ailleurs, c'est leur troisième trimestre à eux, ça doit être octobre, novembre, décembre, donc c'est même pas trois mois complets. Mais c'est plus que ce qu'ils avaient vendu de la PlayStation 4, à peine. Mais évidemment, il y a des contraintes de fabrication qui font qu'ils ne peuvent pas fabriquer plus. Et ils ont tout vendu, et c'est une année record. Microsoft n'a pas donné de chiffres, mais ils ont confirmé qu'ils avaient vendu beaucoup de Series X et Series S, surtout de Series X, et que c'était le meilleur lancement, donc sans donner de chiffres. Par contre, la division jeux vidéo de Microsoft se porte très très bien. Je mentionne juste une chose à propos de Sony, la console est vendue à perte, sans doute à cause des contraintes de production qui ont fait monter les prix des composants, mais ils vendent la console à perte pour la vendre au prix auquel ils la vendent. On peut imaginer que les autres sont dans la même situation. C'est une information intéressante à noter. Et l'autre chose parmi les constructeurs qui ressort de ces bilans, c'est les résultats de Nintendo qui est en train d'atteindre les records de la Wii, enfin qui est sur le chemin de dépasser peut-être la Wii, qui avait vendu je crois 102 millions d'unités dans toute sa vie. Là, ils en sont à 80 millions. J'ai l'habitude de dire... que, enfin, je l'ai dit plusieurs fois, l'année 2020, en fait, c'était pas l'année de la PlayStation 5 ou de la Xbox Series, c'était vraiment l'année de la Switch. Et ils ont vendu, mais comme des petits pains, ils en sont à 80 millions d'unités vendues, ce qui dépasse les ventes de la Nintendo 3DS, ce qui était quand même si elle a eu un début difficile, au final, elle s'est quand même très bien vendue, la 3DS. Et c'est un succès. Alors, c'est un petit peu déformé parce que la Switch est à la fois une console portable et une console de salon. Donc, ils réunissent un petit peu les deux marchés. Mais si vous voulez une idée des titres qui se sont vendus sur la Switch, Mario Kart 8 Deluxe est le plus gros succès de la console, 33 millions de ventes. Animal Crossing, qui est sorti cette année, bon, dans le contexte particulier qu'on connaît, 31 millions de ventes. Un truc qui m'a intéressé, c'est que Zelda et Mario... sont autour des 20 millions de ventes. Donc même si c'est les jeux les plus acclamés sur la console par les entre guillemets vrais joueurs, par les joueurs les plus assidus, et ben les plus vendus c'est quand même Animal Crossing et Mario Kart 8. Donc c'est vraiment les jeux, Animal Crossing qui a bénéficié du confinement, et Mario Kart 8 qui est un super jeu de fun quoi. D'ailleurs, Super Smash est également au-dessus de Zelda et de Mario. Un petit peu moins haut quand même, il est à presque 23 millions aujourd'hui. Donc c'est quand même des chiffres qui donnent un petit peu le vertige, et ça avère complètement le succès phénoménal de la Switch. Quelque chose à ajouter là-dessus? Pas du tout. Bah écoutez, vous êtes encore là? Si, vas-y.
On va boucler avec ce que tu disais au début sur les exclusivités. Il y a eu l'année dernière un courant de pensée comme quoi les exclus, ça ne servait à rien, parce que quand on regarde les chiffres, c'était des Call of Duty, les FIFA qui se vendaient le mieux et qui rapportaient le plus d'argent. Là, on a Nintendo qui nous montre de façon magistrale que les exclus, ça fait toute une plateforme. Et ils vendent leur Switch parce qu'il y a des exclus qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. qui sont extraordinaires et ça dépasse le côté où la console n'a pas besoin d'être un monstre de puissance.
Mmh.
Et je suis vraiment, vraiment, vraiment contente que la Switch fonctionne aussi bien, surtout après, après la Wii U qui a été moyennement bien accueillie.
Et, c'est un euphémisme, oui.
Mais oui, oui, mais c'est... moi, enfin là, je vais dire un truc un peu controversé encore. J'adore la Wii U. J'adore la Wii U. Elle a été... la communication n'a pas été faite, on va dire, dans les grandes règles de l'art, on va dire. Il y a eu confusion, etc. Bon, bref, il y a eu des erreurs de fait. Mais ce que je vois, c'est que les jeux qui étaient sortis sur Wii U font aujourd'hui partie du carton de la Switch. Il y a beaucoup de jeux, d'anciens jeux qui étaient sortis il y a quelques années, qui ressortent et qui ont enfin le succès qu'ils méritent. Et ça, je trouve ça bien.
Bah, voilà. Tu sais que... Non, mais moi, tu ne vas pas être avec des ennemis ici, parce que moi, je dis depuis des années que la Wii U était... Bon, la console elle-même, je ne suis pas de 100% convaincu, mais les jeux, moi, je vante les louanges, enfin, je chante les louanges de Mario 3D World, c'est l'un des meilleurs Mario qui ait jamais été fait. Il y en avait d'autres sur la Wii U, je te rejoins tout à fait là-dessus. C'est une console qui, malheureusement, n'a pas connu un succès suffisant pour que les gens apprécient les jeux qui étaient dessus, les jeux extraordinaires qui étaient dessus. Enfin, bon, maintenant, ils arrivent sur la Switch, donc tout le monde pourra en profiter, mais je te rejoins tout à fait sur ce point. Ouais. Bon, passons aux développeurs. Alors, d'une part, Epic a annoncé que le Game Store avait 160 millions d'utilisateurs sur PC et qu'en 2019, ils en avaient 108 millions, donc ils continuent leur croissance. Et les Daily Active Users, ils sont à 31 millions. Donc, le nombre de personnes qui se connectent tous les jours à l'Epic Game Store, ils sont à 30 millions. Donc, bon, ils ne sont peut-être pas encore au niveau de Steam, mais ils ont clairement atteint leurs ambitions de devenir une alternative à Steam. Donc ça, c'était une note là-dessus. EA a annoncé qu'ils avaient généré beaucoup d'argent avec Star Wars, 3 milliards de dollars, et le dématérialisé, évidemment, compte pour beaucoup dans leurs résultats. Mais surtout, au-delà de ça, le truc qu'on note chez EA, c'est le fait que le remake de Mass Effect sera disponible le 14 mai. Alors, c'est une collection qui s'appelle Mass Effect, c'est Legendary Edition, je crois, Remastered, je ne sais plus. Comment il s'appelle ?
Je crois que c'est Legendary Edition, il me semble.
C'est bien. Ça, édition légendaire. Donc, le premier sera un petit peu retravaillé. Ce n'est pas un remake, mais ils ont retravaillé les graphismes vraiment de manière un petit peu plus... poussé que ce qu'ils ont fait avec le 2 et le 3 où ils ont juste fait un remaster 4K, etc. Et donc, il va arriver le 14 mai.
Sur le premier, ils ont aussi, Dieu merci, ils ont récupéré en gros le système de combat du 3 qu'ils ont mis sur le 1 parce que le 1, les combats dans le 1, c'était quand même un peu mou du genou, même à l'époque, tu vois. Donc aujourd'hui, j'imagine même pas. Donc, ils ont a priori le 1, c'est le 1 qui va bénéficier effectivement du plus de... d'amélioration, notamment visuellement, tu as beaucoup d'effets de lumière en plus, etc. Enfin, quand tu vois les screenshots, c'est intéressant, je trouve. Je suis curieux de voir ça.
Et il donne son juste dû à FemShep, donc Shepard en version femme, qui est devenue légendaire au cours des années et qui sera donc sélectionnable dès le début comme option de personnage préfet. Donc, elle rentre dans le canon de Mass Effect. À côté de ça, je veux noter que Square Enix a quand même réussi son année malgré l'échec de Avengers, comme le note GameCult. Sur Oculus, il y a de nombreux jeux qui ont dépassé le million de dollars de revenus. 60 jeux ont dépassé le million de dollars de revenus. Bon, tant mieux pour eux. Et Konami fait toujours de l'argent, mais surtout avec des jeux mobiles. Bon, je me passerai de commenter plus sur Konami. Dans le reste des news, il y a une chose que je voudrais mentionner, c'est Embracer. Embracer, qui est un groupe qui réunit de nombreux studios de jeux vidéo, qui vient de racheter Gearbox. C'est quand même pas rien, hein, Gearbox, développeur de Borderlands et éditeur de nombreux jeux. We Happy Few, Risk of Rain, Godfall, etc. Et ils ont donc racheté Borderlands et d'autres sociétés qui sont moins connues. Mais aujourd'hui, ils ont, je ne sais plus combien de studios, mais ils ont genre, voilà, 64 studios, 6000 employés. J'ai entendu le nom de Embracer 2-3 fois l'année dernière, je crois, mais j'ai un petit peu l'impression d'être passé à côté. Vous connaissiez, vous, le nom de cette société qui réunit aujourd'hui 64 studios? Alors, ce n'est pas forcément les plus gros studios de la Terre, mais il n'empêche, il commence à devenir... Enfin, il y a THQ, il y a Koch Media, il y a des gens qui sont... C'est pas rien, quoi. Et j'ai l'impression qu'ils sont arrivés en sous-marin, quoi.
Ah oui, oui, clairement. Enfin, c'est un nom, je pense que c'est une boîte qui... C'est un nom qu'on ne met pas en avant dans la communication.
C'est THQ Nordic. Excuse-moi, on précise dans la chatroom, effectivement, c'est THQ Nordic. Donc, pas tout à fait le entre guillemets, vrai THQ, mais...
Non, mais c'est THQ Nordic qui a racheté
une bonne partie des licences. Donc,
Et en fait, je pense que c'est une boîte un peu de l'ombre, mais qui c'est une sorte de... Où effectivement, nous en général, les gens mettent plus en avant les noms comme THQ Nordic ou Saber Interactive, etc. Mais non, moi, je ne connaissais pas vraiment le nom de cette boîte, mais c'est un peu le géant. T'as l'impression que c'est une sorte de géant européen, enfin, pays nordique, tu vois, qu'on ne connaît pas forcément, mais tu vois c'est comme toutes ces boîtes que tu connais assez peu, mais que ces dernières années dont t'as beaucoup entendu parler. Je vois Tencent, il y a encore 5-6 ans en Europe, on ne connaissait pas, tu vois. Aujourd'hui, Tencent, voilà quoi.
D'ailleurs, c'est pas eux qui ont investi dans Dontnod ou je sais plus, j'avais mis une note quelque part par là. Je crois que c'est Tencent. Enfin, c'est
Quantic Dream qui a investi. Non, il y a Quantic Dream, ils sont avec une boîte chinoise. C'est pas Tencent, c'est l'autre. Enfin, en gros,
C'est bien ça. Ça a été annoncé il y a un peu moins d'une semaine. Dontnod a un partenariat avec Tencent et ils ont investi 50 millions. Donc, tu vois, Tencent est présent partout, effectivement.
Ils sont partout, ouais.
Ouais. Mais Embracer, j'ai un peu l'impression que c'est genre un groupe qui rentre dans le jeu vidéo en se disant, bon, là, il y a de l'argent à se faire. Ça a l'air d'être... un marché qui est potentiellement porteur, donc on va investir dans les studios. Ils le font de manière stratégique. J'ai l'impression que c'est plus cet esprit, quoi. Mais je sais pas, je me trompe peut-être.
Il y a un esprit un peu opportuniste.
Bon, pas opportuniste, mais qui c'est un esprit de d'investissement, tu vois. C'est un esprit financier. Ouais. Ils cherchent des domaines qui sont porteurs et ils se disent, ok, alors là, il y a tel groupe, tel développeur. Ils ont des chiffres qui sont bons. Ok, on va les racheter, machin. Tu vois. J'ai l'impression, quoi. Quoi d'autre?
Le prochain achat de Microsoft, hein?
Embracer, ça serait... ça serait une bonne quantité de studios à ajouter à leurs 23 existants.
C'était ce podcast. Oui, on avait parlé d'Embracer. Ils vont faire une franchise avec Zenimax et ça va être Zenibracer.
C'est ça. Quoi d'autre? On a des détails sur la BlizzCon Online qui aura lieu la semaine prochaine, le 19 et le 20. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous annoncer. Mais bon, on ne va pas forcément rentrer dans les détails. C'est juste qu'il y aura une présentation le jour d'ouverture, un petit peu comme sur la BlizzCon. Et si vous voulez acheter un pack de célébration qui vous donne des petits bonus dans les jeux, comme vous le faisiez à l'époque de la BlizzCon, et ben vous pouvez. Mais si j'ai bien compris, tous les panels seront accessibles gratuitement, contrairement à la BlizzCon. Bref, on verra ça dans un ou deux épisodes. Quelques petites news en plus. Je voudrais vous parler du studio chinois Digital Sky. On disait depuis quelques mois déjà que la Chine, à mon avis, allait faire son entrée dans le marché du jeu vidéo occidental avec cette génération de consoles. Et je trouve que ce jeu en est encore un exemple. On en a eu plusieurs, mais ce jeu qui s'appelle Project DT a vraiment une esthétique et un style et une technique qui ont l'air hyper intéressantes. C'est encore un jeu à ajouter à la liste des jeux genre à suivre, qui est issu d'un studio chinois, alors qu'il y a pas si longtemps que ça, on les voyait pas forcément en Occident. Ça me donne des vibes de Platinum Games, en fait, un petit peu. Cette démo, qui est encore qu'une petite démo avec une arène, mais c'est quand même assez appétissant, je trouve. Je sais pas si vous avez vu Project DT.
Ouais, je suis en train de regarder en même temps, là, c'est propre, hein. Enfin, visuellement, c'est assez chouette. Hein.
Je trouve ça pas mal.
Ouais, je connaissais pas. Ouais.
Eh ben moi non plus, mais je pense que c'est un truc à surveiller aussi. Apex Legends arrive sur Switch le 9 mars. Magic the Gathering, comment il s'appelle déjà ? C'est un jeu à la Diablo qui a l'air intéressant parce qu'on a en fait un système qui est lié à Magic où on a 12 cartes qui passent l'une après l'autre dans notre deck de capacité et on peut faire des decks comme Magic en deck vert, rouge, noir, bleu, etc. Et c'est vraiment un Diablo. C'est Magic Legends, mais ils ont l'air d'avoir vraiment intégré les mécaniques de Magic dans le jeu. Je trouve ça, ça peut être intéressant. C'est à voir. Et puis, surtout, cette histoire de 12 cartes qui arrivent dans nos capacités à la suite. On peut en avoir que 4 en même temps et elles font un cycle. Ça peut donner des combos intéressantes, je trouve. Et il y a aussi des héros qui ont des affinités avec les différentes écoles de magie. Moi, je ne suis pas un gros joueur de Magic, mais celui-là, je le trouve intriguant, on va dire. Quoi d'autre ? Returnal sur PlayStation 5 a été décalé à avril. Je suis un petit peu déçu, mais bon, il arrivera bien assez tôt. En même temps, en avril, il y a mon deuxième enfant qui arrive, donc j'aurai peut-être pas le temps d'y jouer. Mais bon, en attendant, vous pouvez vous délecter de la mise à jour de God of War pour PlayStation 5, qui a le 60 FPS en 4K. Sega a également annoncé Judgment sur PS5, Series X et Stadia. Voilà, Stadia n'est pas mort. Hein. Et quoi d'autre ? Il y a Netflix qui a officialisé une série d'animation Sonic Prime qui arrivera en 2022. J'aurais tendance à ricaner, mais j'ai bien appris ma leçon par rapport à Netflix. Il ne faut pas se moquer de ce qu'ils font, parce que parfois, ils réussissent des choses plutôt bien. Donc, on ne sait jamais. Ça se trouve, Sonic Prime, ça sera super sympa.
Je dirais que le God of War, la mise à jour PS5, elle est assez cool. Elle est très classique, hein, mais... Putain, on se rend compte à quel point ce jeu est magnifique. Et encore plus, là, maintenant qu'il tourne en 4K 60... Il n'a vraiment rien à envier à ce qui est sorti l'année dernière. Quoi.
Ah bah faudrait peut-être que je lâche. De ne pas l'avoir déjà fini. J'avais réattaqué il y a peu de temps. Et puis je l'avais lâché pour jouer à d'autres jeux. Et puis là, il y a le patch qui arrive. Mais alléluia ! Alléluia !
Mais tu vois, c'est les bénéfices de l'attente pour finir les jeux. Maintenant, tu peux le finir en version beaucoup plus belle. Donc, c'est parfait.
Ah non, mais c'est la bénédiction d'avoir une pile de jeux. Tu vois, ce que tu mets en attente, tu dis « Ouais, j'y jouerai un jour. » Et puis là, il commence à descendre un petit peu plus vite. Et c'est pas mal. C'est pas mal qu'ils se mettent à remettre à jour des anciens jeux, entre guillemets. Ils ne sont pas si vieux que ça, quoi. Mais à remettre au goût du jour des jeux qui en valent la peine, je trouve ça génial.
On est d'accord. Et d'ailleurs, si vous voulez rejouer à des jeux, dans le Game Pass, il y a aujourd'hui, en plus des jeux déjà existants, Wolfenstein Youngblood, que je ne voulais pas payer, mais j'aime bien l'univers Wolfenstein, donc je le testerai peut-être, et d'autres. Pardon, Gia ?
Oui, je disais Wolfenstein, c'est marrant. C'est marrant comme ambiance.
Le Wolfenstein, c'est les deux, je les ai beaucoup aimés, enfin 1 et 2. Youngblood a eu des reviews un petit peu en demi-teinte, mais du coup, c'est l'occasion de le tester, quoi.
Ouais. Mais clairement, Youngblood est beaucoup moins réussi que Wolfenstein 2. Hein.
Ouais.
Mais bon. Disons qu'il est intéressant à faire si vous jouez en coop, parce que c'est un jeu qui est pensé pour la coop. Et derrière, il y a un level design qui est assez cool, parce qu'il y a Arkane qui a fini un coup de main, donc les créateurs de Dishonored, donc il y a un travail sur le level design. Mais voilà, c'est pas dingue.
Écoute, en coop, je peux jouer avec mon fils, du coup. C'est parfait.
Voilà, parfait. Surtout que c'est très vulgaire. Je crois que les nanas dans le jeu, elles passent leur temps à jurer. C'est incroyable.
Non, là, je valide pas.
Écoute, un FPS bien violent contre des nazis où on insulte tout le monde, ça me paraît parfait.
Sans... Oui. Super. Il a quel âge, là ?
Oh, il a... Non, mais en fait, c'est parfait. Il a 3 ans, donc il va pas comprendre. Donc c'est.
Ouais,
c'est
bon.
Tu vois ? S'il c'est avait bon. 6 ans, j'aurais dit non.
Celui qui arrive là, il va entendre des cris et des machins comme ça. Ouais.
Bon, je vais vous quitter en vous parlant de 2 vidéos qui sont vraiment excellentes, que je vous encourage à regarder. Et d'ailleurs, je les mettrai dans la newsletter. Donc, si vous voulez vraiment... Je parle de trop de choses, en fait, mais... quand, si vous voulez tous les trucs les plus intéressants de ma veille, allez vous abonner à la newsletter sur notepatrick.com et je vais mettre ces deux vidéos. La première, c'est une vidéo de Game Maker's Toolkit qui parle du Nemesis System de Shadow of Mordor et Shadow of War, qui sont des systèmes vraiment, vraiment excellents, qui n'ont jamais eu leur heure de gloire, en partie parce que Warner Bros. A un brevet sur certains des systèmes de Nemesis, mais Game Maker's Toolkit est une série de vidéos sur YouTube de Mark Brown qui décortique les jeux et le design des jeux et il explique en quoi le Nemesis System est vraiment excellent. Donc vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Game Maker's Toolkit, tout simplement, c'est la dernière qui est sortie, je crois. Et il explique ça de manière vraiment satisfaisante pour moi parce que je vante les qualités de Shadow of Mordor et surtout Shadow of War depuis très longtemps. Et c'est vrai qu'il y avait d'autres problèmes qui faisaient que les jeux n'avaient pas été très bien reçus. Et du coup, je suis content qu'on remette un petit peu de coup de projecteur là-dessus. Et donc, ça me fait moi très, très plaisir. Et la manière dont ça construit des histoires de manière dynamique et générée par l'ordinateur, c'est vraiment satisfaisant. Et l'autre vidéo dont je voudrais vous parler, c'est une vidéo de Lowest Percent qui est spécialisée sur les speedruns et qui explique comment les speedrunners ont essayé de terminer Mario Odyssey, on en parlait tout à l'heure, sans utiliser la capacité spéciale du jeu qui est le chapeau qu'on peut jeter sur les ennemis et qui prend le contrôle des ennemis et qui est une partie intégrante du jeu, et comment ils ont réussi à arriver au bout du jeu en réduisant au maximum le nombre de fois qu'ils devaient utiliser cette capacité. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment raconté de manière passionnante. C'est une vidéo de 17 minutes et elle est hyper intéressante. Moi, j'ai passé un super bon moment et du coup, je m'intéresse toujours un petit peu de loin au speedrun. C'est un monde qui est fascinant et là, c'est la meilleure façon de le présenter parce qu'il y a du storytelling, il y a du drama, c'est super intéressant. Donc, soit vous allez sur la chaîne YouTube de Lowest Percent et vous voyez cette vidéo qui est sortie le 6 novembre, ou alors sur la newsletter sur notepatrick.com et vous aurez cette semaine. Faites-le vite hein, parce qu'elle sort le vendredi, la newsletter. Mais vous serez abonné pour ne pas rater les suivantes. Et c'est vraiment une super, super vidéo. Je vous la recommande. Et voilà pour mes petites trouvailles de cette semaine. Je pense que ça nous fait un épisode bien rempli. Merci Gia, merci Jika de votre participation. Est-ce que vous pouvez nous dire, avant de nous quitter, où on peut vous retrouver sur Internet? Commençons par Gia, honneur aux dames. Dis-nous tout.
Que vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc, le nom, c'est très simple, c'est Gia Photo Tech. Donc, Gia, tout simplement, photo puis tech. Vous voyez le jeu de mots un peu pourri. Et donc, je parle de plein de choses dans l'univers des jeux, dans l'univers de la tech, mais en essayant de trouver un angle de vue un petit peu plus recherché, peut-être un petit côté pro par rapport à l'expérience que j'ai eue avant. Et je parle aussi beaucoup de design et puis voilà, essayer de parler de ces sujets qui sont beaucoup traités sur YouTube, mais avec un angle un petit peu neuf.
Super.
Voilà, Gia Photo.
Merci Gia, on aura le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission évidemment. Jika, où te retrouve-t-on toi ?
Eh bien écoute, moi ça n'a pas changé, hein, toujours sur jeuxvideo.com pour... des sujets plutôt tech hardware, dans le journal du hardware le vendredi, donc sur le stream à 16h30, et dans ZQSD, où on a un numéro qui sort normalement cette semaine, où on parle, on revient pendant une heure sur id Software, qui fête ses 30 ans cette semaine, donc c'est les 30 ans d'id Software, donc avec Corentin, on en parle pendant une heure, parce que c'est vraiment un studio qu'on adore, donc et c'est un studio qui a une histoire très riche, donc ça, c'était assez cool comme discussion.
ZQSD.fr et le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission, évidemment. Eh bien, écoutez, j'oublie pas de parler de moi quand même un tout petit peu. Je suis Patrick Béja et je suis sur notepatrick.com où vous pourrez retrouver les liens vers tout ce que je fais, c'est-à-dire les podcasts, évidemment, comme le Rendez-vous Tech ou le nouveau podcast Super Laser Punch où on parle de Marvel et du Marvel Cinematic Universe. On a passé en revue les premiers épisodes de WandaVision avec mon camarade Johan. Vous pouvez aller le chercher dans votre app de podcast. C'est super Laser Punch. Et vous trouverez aussi le lien vers la chaîne YouTube où on parle, où ma dernière vidéo couvre les exclus, le fonctionnement et est-ce que c'est bien ou mal. Bon, spoiler, moi je trouve que c'est plutôt positif les exclus, mais vous pouvez aller voir sur youtube.com/notepatrick pour savoir pourquoi c'est intéressant. Et bien sûr, la newsletter également sur notepatrick.com. Et enfin, le Patreon du rendez-vous jeu. Si vous appréciez la manière dont on traite les news, un regard un petit peu adulte, analytique sur l'industrie, vous pouvez soutenir l'émission sur patreon.com/rdvjeu. Je vous remercie par avance si vous pensez à le faire. Ça prend 2 minutes et vous pouvez le faire depuis votre mobile ou quand vous rentrez chez vous, quand vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling et là vous dites « Oh, Patrick, faut que j'aille voir sur patreon.com/rdvjeu. » Et dans tous les cas, on se retrouve dans une semaine pour le prochain épisode du Rendez-vous Jeu. Je vous fais de grosses bises et je vous dis à très vite. Ciao, ciao !